Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1.
Africa.
Pardon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs. L'émission où vous avez la parole pour participer en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui dans le JDA, Paris met la pression sur Bamako. Lors d'un déplacement en Suède, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déploré le manque de volonté politique dans l'application des accords d'Alger, ajoutant qu'il espérait que cela change après l'élection présidentielle. Alors que pensez-vous de cette sortie, de ces déclarations de Jean-Yves Le Drian? Et quel regard portez-vous sur la situation sécuritaire au Mali alors que l'armée a annoncé avoir neutralisé une dizaine de terroristes dans le centre du pays hier? Je rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de parler du Mali, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur pour une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, cher ami du JDA et Madame Hartmann, encore bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est suite à la libération de Bemba. Je suis personnellement très content, mais je pense qu'il y a un autre aspect du droit maintenant qui doit être vu, c'est la réparation du préjudice et l'indemnisation. Nous attendons ça avec beaucoup d'attention et moi personnellement, je suis ces dossiers. Dieudonné Kasongo, bien des choses à tout le monde. Encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao.
Oui, bonjour la sœur Hartmann, bonjour chers auditeurs. Bon, je voudrais dire quelque chose sur la libération de M. Mbemba à la CPI. Alors moi, je dirais que la CPI est devenue un machin. C'est devenu une chose dirigée par les Occidentaux. Donc la libération de M. Mbemba fait du mal à beaucoup des Africains. Je ne suis pas centrafricain, mais en tant qu'Africain, ça fait beaucoup de mal quand même. Et puis, on parle seulement de la curiosité des troupes de M. Mbemba en Centrafrique. Mais ces troupes, ce sont les mêmes méthodes qu'ils ont fait aussi en RDC, c'est-à-dire ex-Zaïre. Ce qu'ils ont fait en Centrafrique, ce sont les mêmes crimes qu'ils ont commis dans le territoire, dans son propre fief, dans le territoire de la RDC. Malheureusement, quand on avait déposé Mbemba à la CPI, on a porté plainte seulement pour la situation de la Centrafrique sans tenir compte de ce qui s'est passé dans son territoire. Monsieur Mbemba a récupéré, après la chute de Mobutu, c'est un deuxième Mobutu, le même toque sur la tête, la même tenue, la même canne, où lui-même il était sur place parce qu'il disait que lui, il n'était pas à Bangui, mais là, en RDC, les crimes commis en RDC, voire même le cannibalisme en RDC. Pourquoi la RDC n'a pas porté plainte au même moment que la CPI? Moi, je ne suis pas de Kabila, mais c'est pour vous dire que ce sont les mêmes crimes commis en Centrafrique. Et ce sont les mêmes crimes commis à d'autres là, en RDC. Voilà. Bon, allez, merci, au revoir.
Oui, bonjour mes chers frères africains, bonjour tout le monde entier. Je reviens sur la libération de M. Jean-Pierre Mbemba. Je me suis dit ceci, si l'enquête a été vraiment, que le tribunal a été transparent, éclairant, si là, et on voit qu'il n'a pas été coupable, qu'il est pour rien, je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent, pourquoi on l'a libéré. Bon, ça fait aussi mal, peut-être s'il y a eu aussi des victimes, des familles qui ont perdu les membres de leur famille, des enfants, c'est tout à fait normal, mais il faut qu'on comprenne que la justice est là pour faire des enquêtes, pour contrôler, pour voir. On ne doit pas donner une peine à quelqu'un qui ne mérite pas. Si quelqu'un mérite une peine qu'il a commis des crimes contre l'humanité, il doit assumer. Donc, si on voit qu'il est innocent, parce qu'il ne faut pas dire tout que oui, pourquoi on l'a libéré. Non, il faut voir la logique des choses. S'il y a eu des erreurs, il faut que normalement on puisse le libérer et remettre tout ça dans la main de Dieu. Donc, moi, je me dis ceci, Jean-Pierre Bemba, il mérite de sortir de la prison et il faut qu'il rentre dans son pays et être libre comme tout le monde.
Bonjour. Pour faire suite à mon commentaire dans le courant de la semaine, concernant l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, j'avais suggéré que les autorités centrafricaines devaient prendre leurs responsabilités, malgré le verdict de la Chambre d'appel de la CPI, de continuer à poursuivre M. Jean-Pierre Bemba. Il semble que ça a été compris. Alors, il paraît qu'il y a une cour qui a été créée, qui s'appelle le CPS, c'est-à-dire la Cour pénale spéciale, qui va essayer de réinstruire le dossier qui accuse Jean-Pierre Bemba, pour continuer le combat. Je pense que c'est ce qui devait se faire, ils vont le faire, et j'espère qu'ils vont réussir, parce que cet acquittement scandaleux est honteux pour les 5200 victimes qui, par ce verdict, ont été assassinés une deuxième fois. Nous croyons que la CPI, quand même, était pour les faibles. Et là, elle vient de se muer à une justice pour les puissants. Alors, le CPS, qu'il fasse bien son boulot pour continuer son travail de poursuite. Même si M. Jean-Pierre Bemba devenait un homme politique congolais, cela ne devrait pas entraver la nécessité de le poursuivre, vraiment même dans ses derniers retranchements, pour qu'il réponde de ses crimes. Voilà, merci et bonne journée, amis du JDA.
Bonjour, amis auditeurs d'Africa numéro 1. Je me permets de laisser ce message parce que depuis le début de la semaine, il y a toute une émission de foot qui est dédiée au Sénégal. Je voudrais juste tirer un appel. Il n'y a pas que le Sénégal qui est qualifié à la Coupe du Monde. Il y a 5 pays africains qui sont qualifiés à la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas, c'est mon point de vue, qu'on est là sur une façon de diviser un peu les Africains, quoi. Alors, il y a 5 pays africains et il n'y a que le Sénégal, qu'on va parler du Sénégal pendant une semaine. Et les autres pays africains, bon, je tire mon alerte aux responsables d'Africa numéro 1 d'essayer de faire quelque chose, quoi. Ça, c'est diviser les Africains, quoi. Bon, merci et bonne journée. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Aucune envie de notre part de diviser les Africains, bien sûr. Il fallait choisir une équipe pour parler un peu de l'avant Coupe du Monde. On a choisi les Lions de la Teranga, bien sûr. Vous retrouvez Salah Dingaku tous les matins sur la route des Gaïndé, je crois, dans la grande matinale. Mais vous inquiétez pas, je rassure notre auditeur. Nous allons parler de toutes les équipes africaines durant cette Coupe du Monde qui commence demain, je crois. Alors, avant de parler du Mali, comme de tradition, amorcé en début de semaine, séance de rattrapage de votre commentaire laissé sur notre page Facebook hier, c'était au sujet de l'Éthiopie. Et cette séance de rattrapage est menée par Tess Volley. Bonjour Tess.
Bonjour Stéphanie.
Alors, je crois qu'il y avait un petit message sur l'Éthiopie hier, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons un commentaire de Hassan qui nous dit « Je crois que l'Éthiopie fait de grands pas vers le développement, mais ce changement peut constituer une épée à double face. Soit on aura une justice sociale et la fin d'un règne tigréen sans merci, soit on connaîtra le début d'une instabilité politique et sociale à travers l'Éthiopie. Moi, je suis à Djibouti, un pays limitrophe et très proche de l'Éthiopie économiquement et même militairement parlant. Mohamed Kadhami est un compatriote. Merci le JDA. »
Merci Hassan pour ce message envoyé depuis Djibouti. Mohamed Kadhami, c'était notre invité hier. Et merci Tess Volley pour
merci
ce
à
message.
Vous.
On vous retrouve demain, bien sûr. Alors tout de suite, le sujet du jour. Aujourd'hui, dans le JDA, Paris met la pression sur Bamako pour l'application des accords d'Alger. Cela peut-il avoir un impact pour l'élection présidentielle? On se souvient, en mai dernier, c'était une information rapportée par le Canard Enchaîné. Le président Macron avait exigé une offensive anti-djihadiste pour favoriser la réélection du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Paris-Bamako, que se passe-t-il? On en parle tout de suite avec vous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Il s'est inscrit. Diomo Debeng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Ça fait longtemps.
Oui.
Je pensais que vous m'avez zappé.
Mais vous savez le principe. Et je le dis d'ailleurs pour les autres qui interviennent aussi, appellent souvent, parce que vous n'êtes pas le seul, vous savez, on essaye de préjuger ceux qui appellent rarement pour que la parole circule et pour pas que les autres auditeurs pensent d'ailleurs que l'émission ne serait consacrée qu'à quelques-uns. Voilà, Diomo.
Oui, je suis d'accord, Stéphanie, mais bon, qu'ils sachent aussi qu'il y a des hommes qui ont de bonnes idées et que nous contribuons aussi au développement de l'Afrique. Voilà. Si les décideurs...
En toute modestie, mon cher Diomo.
Voilà.
Alors par contre, vous êtes un peu loin. Je ne sais pas si vous avez un kit Mali, on vous entend mal.
Non, pas du tout. C'est mieux maintenant.
Non, c'est pas mieux, mais allez-y, on vous écoute sur France-Mali. Que pensez-vous de cette pression que met Paris sur Bamako?
Oui, vous m'entendez mieux maintenant, je crois, non?
Non, pas mieux, mais allez-y, on va vous entendre et puis comme ça, ce sera fait.
D'accord. Donc, je dirais, Stéphanie, que aujourd'hui, la France a raison de mettre la pression sur Bamako. Vous savez que le président Ibeka est venu au même moment, vers la fin du mandat du président de l'ancien président partant, de François Hollande. La France a mis un bon paquet, pensant que le président Ibeka pouvait être l'initiateur de cette réconciliation au Mali. c'est-à-dire unifier le nord au sud, à Bamako et tout ça, ben nous avons vu que ça a été voué à l'échec. Et aujourd'hui, la France, comme on le dit dans tous les pays, dans tous les langages politiques, hein, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Aujourd'hui, l'intérêt de la France, ce n'est plus Ibeka. Ce n'est plus Ibeka parce qu'il avait deux challenges, la réconciliation et l'unification du pays. Et nous voyons aujourd'hui que tout ça est voué à l'échec. Alors, quelle peut être la position de la France face à tout ça? La France veut retirer, enfin veut avoir ou reprendre ce qu'il a mis avec ses intérêts. Vous voyez combien de militaires français sont sur le théâtre du Mali? Vous les voyez, qui meurent, qui payent de leur sang. Ces militaires-là, ces jeunes enfants qui sont privés de leur famille.
Vous pensez alors, que la France, alors, en a marre de d'assurer la sécurité du Mali et trouve que le gouvernement n'en fait pas assez. Merci beaucoup, Diomo Debaigne, d'avoir ouvert ce débat. Diomo Debaigne qui, selon lui, estime que la France cherche à défendre ses intérêts. On continue d'en parler avec vous. On va écouter Manjou. Manjou, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Manjou. Vous dites que ce n'est pas la faute du gouvernement malien si l'accord d'Alger n'est pas appliqué. D'autant qu'il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Hein. Le Quai d'Orsay l'a reconnu ce matin, notamment dans les patrouilles mixtes qui circulent, le fonctionnement des collectivités territoriales, pardon. Mais il faut encore lancer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des groupes armés.
Ah bon, vous pensez que le gouvernement n'a pas fourni d'efforts à présent? Vous vous rappelez de la signature de l'accord, au moment où on leur a appelé de paraffer ce fameux accord-là d'Alger. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même pour la mise en place du MOC à Gao, ça s'est bien passé, à Tombouctou. Mais à Kidal, il s'est passé quoi? C'est les mêmes groupes armés, je ne sais pas quoi, proches du mouvement terroriste en Sardine qui était réticent. Ils n'ont pas voulu. Ça a été, tout le monde l'a vu. Et quand Jumeau Dibon parle de l'unification du Mali, qui est la France à son intérêt, lui, il comprend le sujet à l'envers. Au contraire, cet accord-là, ça ne va pas dépendre d'Ibeka. Vous avez vu la plateforme, lorsqu'on a fait la mobilisation contre cet accord-là, on dirait que c'est une connivence. Ce n'est pas Ibeka qui décidera de cet accord-là, c'est le peuple malien.
Vous dites finalement, vous, Manjou, si ça bloque de toute façon, c'est surtout parce que les gens n'en veulent pas de cet accord.
Les peuples maliens n'en veulent pas de cet accord tant qu'on ignore le contenu. Tout ce qui est dedans, c'est la balkanisation du pays. C'est ce qui n'a pas compris votre auditeur. Il parle de l'unification. C'est pas vrai. C'est le contraire. Et les maliens, si Jean-Yves déplore la mise en œuvre de cet accord, par contre, les peuples maliens déplorent sa condescendance et son paternalisme. C'est pas lui de faire n'importe quoi de chez nous. On n'accorde pas comme ça. Il faut qu'on sache ce qui est dans l'accord. Et un des deux, où on parle de l'intérêt des soldats. Les soldats, oui, les soldats français sont morts au Mali. Mais je vous dis, j'ai toujours répété ça, madame. Ils sont pas morts uniquement pour les peuples maliens, il faut le savoir. Mm. La France a des intérêts, elle n'a pas d'amis. Ils sont morts pour les multinationales qui sont là-bas. Mm. Comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, à Gao, on ne peut pas accéder, il y a des zones à Gao, on ne peut pas y aller. Gao, une ville frontalière au Niger, une zone bourrée d'aluminium où arrive à installer là-bas. De grâce, on demande aux gens d'arrêter de nous dire que la France est au Mali pour la sécurité du Mali. Depuis qu'ils sont là, on a plus de morts qu'avant leur intervention. Ça a toujours été fait.
Est-ce que l'élection Manjou, selon vous, ensuite on va écouter Camara, est-ce que selon vous, Manjou, l'élection va changer quelque chose?
Ça ne va rien changer. Ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Ça va changer cette élection. On ne sait même pas qu'est-ce qui va. C'est ambigu. De toute façon, d'après les spécialistes, c'est plié. Parce que c'est pouvoir, ces messieurs qui sont en place, ils font du blablabla. Ils font le jeu de la France. Ça, tout le monde le voit. Ibeka fait le jeu de la France.
Bon, c'est très clair. Merci, Manjou, de votre intervention. Hein. 01 55 07 58 00, si vous voulez réagir. On va écouter Camara dans un instant. Hein. Mais cette déclaration de Jean-Yves Le Drian intervient dans un contexte difficile au Mali, où la sécurité peine encore. L'armée malienne a tout de même annoncé hier avoir neutralisé 10 terroristes dans le centre du Mali. région particulièrement touchée ces derniers temps. Il y a eu aussi, alors ce n'est pas du terrorisme, mais il y a eu aussi des échauffourées hein, à la frontière avec le Sénégal, dans une région aurifère, hein, où un jeune homme a été tué quand même, et des dizaines de cartes d'électeurs ont été brûlées, les villageois hein, protestant contre justement les mines qui se trouvent dans leur village et dont ils ne bénéficient pas. Camara, bonjour.
Oh, bonjour, Stéphane Hartmann.
Bonjour, Camara. Dites-moi, le climat, quel regard portez-vous sur ce climat sécuritaire? Là, je viens d'énoncer deux petits faits entre des arrestations de terrorisme et des villageois hein, qui s'indignent. Est-ce qu'il faut craindre pour le déroulement de l'élection présidentielle au Mali?
Ben, ça fait plus que craindre les élections, parce que normalement, ben, pour personne consciencieuse, il ne doit même pas avoir élection au Mali. Donc déjà, c'est un truc pillé en avant, ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, non. Et ça serait bien comme on a beau chanter la démocratie, tout. L'avènement de la démocratie, c'est depuis les années 91 au Mali. Mais avant la démocratie, le Mali était bien.
Vous mettez en cause complètement la démocratie. Hein.
Oui, on était bien parce que nous, notre démocratie, ben, ça ne nous a pas donné de leçons positives concernant, c'est-à-dire même le savoir-vivre. Parce que nous, je pense qu'on a mal compris la démocratie. Après l'avènement de la démocratie, il y a eu au moins trois régimes. Et avant la démocratie, même il n'y a même pas eu un centimètre du Mali qui a été pris par la rébellion. Donc si aujourd'hui la France est en train de lécher Ibeka, ben, c'était une chose attendue.
Donc, pour vous, c'est un lâchage. Paris est en train de laisser de lâcher Ibrahim Boubacar Keïta.
C'est pas, ils sont en train de le lâcher, ils l'ont lâché. Ils l'ont déjà lâché. Je ne sais pas si les gens ils ont vu ben, à l'Europe 1, quand c'est une chaîne française, quand ils disent que Ibeka n'a pas, c'est-à-dire, tenu à l'accord où c'est-à-dire, les infrastructures qui devaient être mises du côté du nord du Mali. Mais c'est quoi?
On se souvient, je pense que c'est une tribune du journaliste hein, Vincent Hervouet, il y a quelques temps, effectivement, hein, qui
non,
disait que.
Je ne crois pas que ce soit tribune de choses, mais concrètement. Qu'est-ce que lui-même il a fait? En venant, lui, il a mis le poignet, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais ça dit, on ne peut pas dire, c'est comme si un enfant il dit à son papa, tu ne vaux rien. Mais tu vas avoir l'âge de ton papa un jour. Il est venu au pouvoir. Lui, il est venu au pouvoir, ben, peut-être les personnes proches, peut-être lui-même individuellement, il pouvait faire quelque chose. Mais que ce soit Ibeka ou quelqu'un d'autre qui va venir, mais quand il va venir, ce sont les mêmes questions des proches là. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Voilà. Nous, notre démocratie était bien pour nous, les Maliens. Parce qu'un pays qui vit, ça vit sur la paix, ça n'a pas de sens. Parce qu'avant, c'était le nord, les trois régions là. Mais s'ils sont juste arrivés, chose, et que c'est arrivé même, les groupes ethniques, ils vont commencer à prendre les armes. Parce que c'est facile de faire entrer les armes dans un pays, mais c'est très difficile de faire sortir l'arme dans ce même pays. C'est ça qui est la vérité.
Vous êtes plutôt pessimiste, Camara. Hein.
Mais l'élection ne doit même pas avoir lieu. Parce que le monsieur, il a perdu d'avance. Mais quand il fait élection, ça veut dire lui, il veut trouver ce système pour y passer. Parce que personne n'est bête que, c'est-à-dire, après tout ce que lui-même, il a promis avant de venir au pouvoir, que, c'est-à-dire, il va vouloir se présenter pour un autre mandat. La France a raison de le lâcher. Parce qu'il n'est pas courageux, parce que ça, les gens pensent que ça, c'est une défaite. Souvent, on pense qu'il y a certaines choses qu'on peut y arriver, mais quand tu es à l'œuvre, que tu ne peux pas, c'est vraiment honorable que dire que non, j'y croyais que c'est faisable. Mais désolé, mais il va falloir que quelqu'un d'autre vienne me remplacer. Ça, c'est homme.
Alors du coup, dans la multitude des candidats, Camara, je redonne le numéro hein, si vous voulez réagir à ce que dit Camara, 01 55 07 58 00. Quel candidat vous verriez, vous?
Qui, moi?
Oui.
Ben, moi, vraiment, je n'ai pas de candidat particulier, mais au moins, il y a deux personnes, peut-être, qui n'ont pas beaucoup séjourné dans les différents gouvernements du Mali. Peut-être Cheikh Modibo Diarra. Ou Moussa Mara.
Mais qui était Premier ministre quand même, Cheikh Modibo Diarra, durant la transition.
Le Premier ministre, il n'avait aucun pouvoir. Il était Premier ministre, il n'avait aucun pouvoir. On lui faisait que lui dictait les choses. Parce que lui, au moins, il a fait ses preuves ailleurs.
Pour vous, il faut quelqu'un qui n'ait pas trempé dans le marigot politique malien.
Effectivement.
D'accord, c'est très clair. Merci, Camara, de votre intervention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. On va, il nous reste du temps, un peu de temps. On va écouter Demba. Demba, bonjour.
Oui, bonjour, madame Atman.
Bonjour, monsieur Demba. Vous êtes, comment dire ça, pardon. Vous reprenez ce que disait Mandjou tout à l'heure. Effectivement, l'accord, le peuple malien, vous dites, ne veut pas de cet accord d'Alger.
Oui, non, non, cet accord-là n'arrange pas le peuple malien. Voilà, cet accord-là a été, voilà, comme j'ai l'habitude de dire que l'État malien a le couteau à la gorge. Voilà, la seule chose que l'État malien, on peut dire que ça, c'est bien fait, parce que l'ONU a accepté que le Mali ne sera pas divisé comme la France le voulait le faire. Et l'Union africaine aussi a approuvé. Voilà, mais comme la France a poussé MNLA d'attaquer le Mali, bon, pour que MNLA s'en sort vainqueur par rapport au niveau politique, c'est ça qui est en train de... Les Maliens ne veulent pas cet accord-là. Voilà. Sinon, si on dit que l'État malien n'a rien fait pour appliquer l'accord d'Alger, nanana, mais comme j'ai dit la semaine dernière sur l'intervention de Francis, non, c'était ouais, vendredi passé.
Ouais.
Voilà. Et comme on appelle pour dire que l'État malien n'a pas fait pour l'accord au niveau sécurité tout. J'ai dit que Barkhane est là pourquoi? Barkhane a dit qu'ils sont allés pour défendre l'intérêt le peuple malien. Et l'aménagement aussi pareil. Et avec tout ça, il y a l'insécurité dans les pays. Avant que toutes ces interventions soient faites, il n'y avait pas l'insécurité au Mali.
C'est-à-dire que vous vous reprenez effectivement, Demba. Merci beaucoup, Demba, de votre intervention. Ce que vous dites, finalement, c'est que d'une part, que l'opinion malienne ne veut pas de ces accords d'Alger. Et d'autre part, surtout, c'est que malgré le déploiement de forces multinationales, je pense à, quand je dis multinationales, je pense à la MINUSMA, mais aussi de l'armée française au sein de l'opération Barkhane, finalement, la sécurité ne s'est pas améliorée. Certes, certaines villes ont été libérées. On pense peut-être à Gao, Tombouctou, mais l'insécurité demeure au Mali des poches et c'est même diffusé dans le centre du pays. On va terminer rapidement avec la Sana et Kana, peut-être si on a le temps. La Sana, bonjour.
Oui, bonjour madame, comment allez-vous?
Je vais bien, merci la Sana. Et vous-même?
Je suis en train d'écouter votre émission. Et je vois qu'avec tout ce qui se passe au Mali, je viens de quitter à Bamako il y a un mois et demi.
Oui.
Moi, en ce moment, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Je suis marié ici, je travaille tout ça. Mais quand je vois le système africain, la politique africaine, et je regarde le système de la politique française, on dirait dans deux mondes totalement différents. On est gouverné avec un système de toujours de la dictature. On a des présidents qui ont fait des études en Europe. Moi, je pense que moi, j'ai fait mes études, je suis à l'université d'ici. Mais quand je vois à chaque fois ces présidents qui ont fait des études en Europe ici, après, notre espoir, c'était eux. On se trouve dans un système qu'ils sont les enfants. On est dans un pays, il n'y a que du favoritisme.
On dénonce beaucoup la corruption au Mali. Vous êtes nombreux à en parler, notamment ceux qui reviennent quand vous faites des allers-retours comme ça, où vous dénoncez beaucoup. Un auditeur, la dernière fois, évoquait le racket des policiers, par exemple.
Mais ça, c'est... Malgré même si vous avez tous les papiers, vous êtes sur une voiture, vous avez tous les documents sont complets, vous avez l'assurance, vous avez la vignette, vous avez la carte grise, vous avez le permis de conduire. Même nous, moi, j'ai le permis français. Quand je vais en Europe, j'ai un permis français, c'est un permis international. Mais souvent, quand on va au Mali, malgré tout, tous les documents de la voiture, ils sont complets. Quand tu montes des permis étrangers, ils trouvent toujours des prétextes. Voilà, il faut leur donner de l'argent. Mais quand tu dis, quand ils vont dire qu'ils vont amener la voiture à la fourrière, ça ne les arrange pas, les policiers là-bas. Ils préfèrent que tu les payes en espèces. La population le savait très bien, le gouvernement le savait très bien, les policiers, parce qu'avec des paies d'argent qu'ils gagnent par jour, quand ils arrêtent quelqu'un qui donne l'argent, l'argent, ça ne va pas dans la caisse de l'État. L'argent, ça va dans leur poche à eux-mêmes. Tu sais, il n'y a pas que ça le problème. On a des problèmes d'éducation. On n'a pas d'école. Les écoles, il y a la plupart...
Ce que vous dites, Lassana, et on arrive à la fin de cette émission, c'est que finalement, le Mali a beaucoup d'autres problèmes et doit peut-être régler d'abord question de corruption et de gouvernance, peut-être avant qu'on parle effectivement de cet accord d'Alger. Vous avez reconnu la petite musique, Lassana. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci à tous aussi de votre participation. Merci à notre stagiaire Tess Volé. Merci à Maxime Salin qui a réalisé cette émission. On se retrouve demain jeudi pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres aussi. C'est important à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, la vraie, l'unique radio africaine. À demain.